Docteur Germain Cramo, bonjour.
Et bonjour, M. Koumé.
L'actualité dans la sous-région, c'est cette décision de retrait annoncée par trois pays que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger qui ont annoncé leur retrait de la CEDEAO. Comment vous interprétez cette décision déjà?
C'était plus ou moins prévisible au regard des tensions qui existaient entre les deux parties, mais on avait toujours l'espoir que les choses s'arrangeraient, vu que de plus en plus, on fait la promotion des regroupements régionaux pour pouvoir faciliter le commerce entre les pays de l'Afrique de l'Ouest.
Les dirigeants de ces trois pays ont donné les raisons de ce retrait. Ils les reprochaient donc certaines choses à la CEDEAO. Mais pour vous, en tant qu'économiste, quelles pourraient être les conséquences d'une telle décision?
Le retrait de ces trois pays aura certainement des conséquences négatives sur les deux camps, aussi bien les pays qui se retirent que les autres pays de la CEDEAO, parce qu'il y a des liens qui existent déjà entre ces pays qui permettent à ces pays d'échanger plus facilement. Donc il y a une suppression des droits de douane entre ces pays membres de la CEDEAO. Mais avec leur retrait, ils deviennent des pays hors CEDEAO. Donc, il va falloir rétablir ces barrières tarifaires. Donc, ils vont avoir aussi un impact sur le coût de la vie des deux côtés. Mm-hmm. À cette illustration, nous voyons que le Mali est le principal pays importateur intra-CEDEAO, avec 28% des importations intra-CEDEAO, suivi par la Côte d'Ivoire, 25%. Donc nous voyons que là, ce sont des pays qui font du commerce avec les autres pays membres du UMOA, donc leur retrait va impacter les deux camps.
Pour mieux comprendre les conséquences, la CEDEAO, justement, quels sont les avantages d'être membre?
Oui, les pays membres de la CEDEAO ont décidé de se regrouper pour supprimer tout ce qui est barrière tarifaire entre eux. Donc, ce qui permet de faciliter la circulation des biens et des personnes. Donc, on peut importer et exporter librement entre les pays de la CEDEAO. Et vis-à-vis des pays non membres de la CEDEAO, les pays ont adopté le même tarif extérieur commun. Et en termes de négociation aussi, généralement, les pays négocient en bloc avec d'autres partenaires extérieurs. Tout cela constitue des avantages. Et il y a des projets, je peux dire, sous-régionaux qui sont financés par la CEDEAO et qui permettent de renforcer tout plus ou moins les liens entre ces pays-là.
L'une des raisons avancées par donc, les autorités de ces trois pays, Mali, Burkina et Niger, c'est donc ces décisions économiques prises contre des pays, notamment le Niger, avec cette asphyxie économique, ce sont les termes de ce communiqué. Est-ce que les textes de la CEDEAO prévoyaient donc ce type de sanctions?
Je pense que le fonctionnement de la CEDEAO est bien régi par des textes. Et lorsqu'il y a des changements anticonstitutionnels, il y a des textes et les textes prévoient la démarche à suivre. Je pense que si les décisions étaient contraires aux textes de la CEDEAO, la voie la plus appropriée, c'est d'attaquer cette décision. On attaque la décision pour dire que cette décision est contraire à nos textes. Et je dis que même individuellement, les pays sont souverains. Ils peuvent décider de commercer avec un pays ou pas.
Alors, vous l'avez dit, justement, comme conséquence, c'est par exemple l'imposition des taxes désormais aux frontières avec ces trois pays. Mais on note que le Burkina, le Mali et le Niger font encore partie de l'UEMOA. Alors, quels sont les avantages de rester encore membre de l'UEMOA par rapport à la CEDEAO?
La sortie de ces pays de la CEDEAO aura aussi un impact sur leur appartenance à l'UEMOA, puisque ces pays au sein de l'UEMOA aussi appliquent pratiquement les mêmes tests, c'est-à-dire la suppression des tarifs douaniers entre les pays membres. Donc, si ces trois pays deviennent des pays non membres de la CEDEAO, donc les autres pays membres de l'UEMOA doivent appliquer aussi les mêmes tests qui régissent la CEDEAO relativement aux pays non.
Et quelles sont donc les perspectives qui s'offrent donc à ces trois pays désormais après cette décision, surtout au plan économique?
Selon moi, en termes de perspectives, c'est de réorganiser leurs échanges à travers le monde. Parce que ces pays n'ont pas d'accès à la mer, donc il va falloir négocier avec d'autres pays pour faciliter le commerce avec l'extérieur. Et je pense que tout dépend de la stratégie que ces pays vont élaborer. Nous vivons dans un espace commun, donc il est important qu'on ait des relations de bon voisinage. Il y a des pays comme le Rwanda qui n'ont pas accès à la mer, mais qui connaissent un développement qui est cité en exemple à travers le continent. Donc le fait de ne pas avoir accès à la mer constitue pas, je peux dire, un frein, mais tout dépend des relations de bon voisinage que ces pays vont entretenir avec les autres voisins. Donc, nous espérons que cette décision s'inscrit dans une stratégie globale qui permettra à ces pays d'amorcer le développement.
Justement, dans cette perspective stratégique, est-ce qu'on peut voir le retrait de ces trois pays aussi de la zone CFA avec la création d'une monnaie commune?
Oui, bon, il faut s'y attendre. Ils ne seront pas les premiers pays à avoir leur propre monnaie. Donc, je pense que pour moi, tout ce qui concerne la monnaie, c'est la gouvernance autour de cette monnaie. Qu'est-ce qu'on met pour gérer efficacement efficacement cette monnaie pour éviter que cette monnaie, au lieu d'être un instrument de développement, soit source de problèmes. Donc pour moi, le fait d'avoir leur monnaie n'est pas vraiment le principal défi. Le défi, c'est comment gérer efficacement cette monnaie pour que cette monnaie soit effectivement un instrument de développement économique.
Docteur Germain Cramaux, je vous remercie.
Merci à vous aussi.